Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Bac FM. Nous sommes mercredi, il est midi une très précisément et comme à l'habitude, eh bien, on se retrouve autour des micros de ce studio pour pouvoir vous présenter l'actualité et ainsi que toutes bien sûr les manifestations liées à la Maison de la Culture Nevers Agglomération, scène conventionnée à en territoire. Et c'est une semaine notamment placée sous le signe du territoire, bien sûr, qui est à l'honneur et dont on va parler pour commencer cette émission. Et nous aurons l'occasion aussi, bien sûr, d'évoquer, comme je vous l'ai dit, donc les manifestations liées à l'activité de la maison. Et c'est pour ça que ce matin, nous recevons dans les studios Dominique Baran. Bonjour Dominique.
Bonjour.
On va évoquer notamment ce concert de printemps qui aura lieu donc le 24 mars, dimanche, non pas prochain mais le suivant, et on aura l'occasion d'évoquer tout le programme que vous pourrez découvrir et pourquoi surtout vous ne pas manquer à nouveau ce concert qui devrait vous procurer de chouettes sensations musicales et auditives. Je vous l'ai dit, notre semaine est une semaine placée sous le signe, on va dire, de la... pas de la promenade pour nous, de la balade, mais en tout cas de la découverte à nouveau de notre beau département au travers d'un spectacle proposé, bien sûr, sur un certain nombre de salles du territoire. Je vous l'avais dit la semaine passée, nous voyageons allègrement dans toutes les contrées, dans tous les recoins, on va dire, de ce département, puisque nous étions hier soir à Saint-Martin-du-Puy, où la salle était, alors, petite jauge, évidemment, dans une toute petite salle, mais une jauge et une salle quasiment pleine pour accueillir Didier Brice, un artiste, alors, du cinéma, du théâtre, de la scène, des planches d'une manière générale. Un artiste extrêmement doué et qui vous fera voyager au travers d'une œuvre de Marivaux. Alors non pas l'homme sans souci, parce que l'homme sans souci, c'est le nom de son spectacle, celui qu'il a réadapté, librement adapté, de l'indigent philosophe de Marivaux, donc une œuvre classique. Il n'y a aucune difficulté pour appréhender ce spectacle, parce qu'en effet, on a également, comme il explique après, lors de l'échange qu'on a avec le public, puisque vous savez qu'après le spectacle, on a l'occasion de pouvoir partager un verre de l'amitié, de rencontrer notamment l'artiste, et vous pouvez lui poser vos questions, et puis faire vos remarques ou vos appréciations sur le spectacle, et puis comme il l'a exprimé d'ailleurs hier avec le public, voilà, il a incorporé pas mal également d'autres auteurs dans ce spectacle. Finalement, vous avez pas mal de ressources culturelles et littéraires différentes. L'histoire est extrêmement simple, hein. Vous allez voir débarquer sur scène un homme chargé d'un barda impressionnant sur le dos. Et puis, on est un peu dans l'idée du théâtre de Tréteau, comme je l'expliquais. C'est-à-dire, il pose tout son fatras sur scène, et puis il va vous jouer une pièce de théâtre avec le décor. Il a le décor, il a tout, il a les costumes, il a tout sur lui. Et il va surtout aussi, on va dire, expliquer un petit, faire une sorte de complainte sur sa vie un petit peu compliquée, sa vie amoureuse un petit peu tortueuse. Mais il y a beaucoup d'humour dans ce spectacle, on rit beaucoup. Il y a aussi une sorte de participation avec le public, hein, finalement un petit peu équivoque, qui n'est pas si flagrante que ça, mais il se sert également de vos retours, de votre participation. C'est une sorte de stand-up théâtral classique, c'est un spectacle assez mystérieux. Alors, je vous le conseille, et vous le savez, on vous le dit à chaque fois, mais il faut absolument réserver et acheter vos places le plus rapidement possible. Parce que nous avons, outre la représentation de Saint-Martin hier soir, une représentation ce soir à la salle des fêtes de Ternan, où nous avons déjà quasiment une cinquantaine de places vendues réservées sur une jauge à 70. Il faut donc vraiment vous dépêcher. Vous pouvez encore nous contacter aujourd'hui à la Maison de la Culture ou aller sur le site internet, bien sûr, pour prendre vos places en direct. Et vous pouvez le faire maintenant, vous le savez, sur le site, même pour les spectacles de côté jardin. On aura l'occasion d'accueillir ce spectacle pour vous, Neversois et Neversoises, ou de l'agglomération, dans la petite salle de la maison, donc jeudi soir à 20h. Il reste quelques places, il doit rester, je crois, 6 ou 7 places grand maximum dans cette petite salle. Donc si vous êtes intéressé par ce spectacle et si vous aimez le théâtre, vous devriez l'être. Donc n'hésitez pas, jeudi 14, donc à 20h dans la petite salle. Et on continue notre tour de Nièvre en repartant à la salle des fêtes de Cours-sur-Loire. Alors attention, on ne sera pas à Cône, on sera à Cours-sur-Loire, donc un petit peu à l'extérieur de Cône, si vous connaissez, route de Saint-Loup, la salle des fêtes de Cours. On a déjà eu l'occasion d'accueillir des spectacles. Vendredi soir à 20h, la fouille, il faut vous dépêcher parce qu'il ne reste quasiment plus de place. La fermeté, samedi 16 mars à 20h, la salle des fêtes, c'est la même chose. Hein. C'est une salle proche de Nevers, mais malgré tout, on a déjà bien chargé. Et il reste encore des places, mais ça se remplit aussi rapidement. Accrue-la-Ville, dimanche 17 à 18h, à la salle des fêtes. Voilà. Vous auriez tort, je vous l'assure, de rater Didier Brice de passage dans la Nièvre, parce que c'est un artiste qui a quand même reçu notamment le Molière de second rôle pour A tort et à raison en 2016. française et qui notamment avait aussi été pas mal, on va dire, récompensé, en tout cas reconnu pour son travail en 2013 sur le journal d'un poilu. C'est un artiste que vous pouvez voir aussi dans des feuilletons, à la télévision. Et c'est surtout un artiste qui est, on va dire, un petit peu tout terrain. Et d'ailleurs, il est ravi de jouer dans la Nièvre. Hier soir, il était ravi d'avoir autant de monde, finalement, dans un petit village de Saint-Martin-du-Puy. Voilà, il a commencé sa tournée de manière très agréable et on espère bien sûr que ça va continuer. On pense avoir des salles pleines à chaque fois, donc je vous l'ai dit, dépêchez-vous de réserver vos places. Deuxième information importante, je vous avais aussi parlé de ce spectacle qui était en liste d'attente, Solus Amor, la semaine passée, donc qui aura lieu jeudi 21 mars, donc jeudi prochain. Un spectacle de cirque pour toute la famille, un spectacle grandiose, vraiment à mettre là pour le coup entre toutes les mains et devant tous les yeux, ébahi certainement d'adultes comme enfants, de Recircle Company, cette compagnie qui nous avait proposé notamment Myland la saison passée, un spectacle de cirque autour de l'élément de la terre et du sol notamment. Cette fois-ci, on est dans un spectacle, un autre opus notamment, qui va parler cette fois-ci d'amour, celui sa mort, vous l'avez compris, mais aussi beaucoup de l'air et de l'aérien, du cirque aérien, en grande partie présent dans ce spectacle, avec un énorme ours, non pas en pluche, mais on va dire, pas robotisé, mais avec une installation assez intéressante au niveau de sa manipulation. C'est également un regard sur l'écologie et sur le monde qui nous entoure, notamment ces ours, évidemment, qui sont en grand danger actuellement avec nos problèmes climatiques. On a un regard très intéressant sur ce spectacle. C'est un spectacle, je vous l'ai dit, qui était en liste d'attente. Quelques places sont libérées. Vous pouvez aller donc soit sur le site de la Maison de la Culture, www.maisonculture.fr, pour pouvoir acheter des places directement, ou vous pouvez bien sûr contacter nos hôtesses d'accueil à la billetterie, Lucille et Julie, 03 86 93 2 x 09. N'hésitez pas, parce que c'est un spectacle qui va faire certainement une petite partie de Tour du Monde. Il passe par Nevers, il passe par la France avec quelques représentations et un certain nombre d'artistes sur scène, d'une qualité athlétique, esthétique, absolument incroyable à découvrir. Bref, ne manquez pas ce spectacle. Voilà, on va faire une pause musicale qui va nous entraîner directement et joyeusement dans la deuxième partie de notre émission avec Dominique Baron pour parler du concert du 24 mars. Alors, on va pas donner le titre de l'œuvre, on va voir si vous êtes capable de la reconnaître et de la deviner. Elle est extrêmement connue et on commence donc par cette petite pause musicale. Thank you. Dominique, merci d'être présent ce matin pour nous parler de ce concert que vous mettez donc à l'honneur dimanche 24 mars à 17h dans la grande salle de la maison. Un concert tourné notamment sur l'ensemble de cordes, puisque le concert et le programme s'appellent Cordissimo, donc un programme alléchant qui va, comme à l'habitude, parce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire, retracer différentes époques dans une thématique particulière, en tout cas précise, et là c'est le cas puisque on va aller facilement de Bach jusqu'à Dvorak, donc en l'occurrence on va balayer un certain nombre d'époques. Donc ce concert qui arrive là au printemps, en l'occurrence pour lancer le printemps, on sera quasiment le jour du printemps, donc un programme qui est alléchant et que tu as concocté pour les auditeurs et les auditrices ce dimanche, autour notamment de Bach pour commencer. Alors on va dévoiler bien sûr toutes les œuvres présentes, on commence par Bach.
Tout à fait, un cocktail d'œuvres colorées, ça tombe bien comme tu l'as dit, ça va être le premier jour du printemps, et d'ailleurs il y aura une œuvre dédiée au printemps. Oui, alors moi j'ai voulu mettre en valeur les cordes de l'orchestre, hein, tous les pépites de cordes à travers différents compositeurs de différentes époques et différents styles, différents courants musicaux, comme tu l'as dit, allant de la période baroque, avec Bach, et puis jusqu'à la période presque contemporaine, oui, avec Bartók notamment. Alors Bach, on va commencer à ouvrir ce concert par le célèbre concerto brandebourgeois numéro 3 en sol majeur, de Jean-Sébastien Bach, qui est un grand classique parmi les 6 concertos brandebourgeois de Bach, qui réunit uniquement les pupitres de cordes. Donc bon, alors on retrouve l'écriture de Bach, hein, cette écriture comment on va dire, très contrapuntique, avec un thème dans le premier mouvement notamment qui passe aux différents pupitres, hein, un dialogue entre les différents pupitres, et donc là on est sur une composition majeure du père de la musique classique,
oui,
on va dire.
Tout à fait. C'est vrai que Bach, alors ces 6 concertos brandebourgeois sont quand même très différents les uns des autres, c'est pas une suite finalement quasiment logique, mais quand on entend les 1 et 2 et le 3 derrière, finalement on a l'impression que c'est très différent.
Très différent dans l'orchestration, très différent au niveau des mouvements aussi, puisqu'il y a des concertos comme le numéro 3 en 3 mouvements, il y en a d'autres qui ont 5 mouvements, donc et qui sont au niveau de l'écriture très très différente, notamment, et c'est ça qui fait la richesse de ces concertos brandebourgeois. Donc celui-ci, le troisième, uniquement le seul pour cordes, est en 3 mouvements justement, avec un mouvement central, un adagio, qui donne la parole soit au clavecin, soit au violon solo. Là, ce sera en l'occurrence le violon solo qui nous fera une petite cadence.
Bach, ensuite, Mozart, bien sûr, vous l'avez reconnu dans les traits qu'on vous a passés. C'est une œuvre, une mélodie extrêmement connue, tellement connue que je pense même ceux qui ne sont pas mélomanes de musique classique la connaissent de toute façon. Réutiliser dans des publicités, dans tout ce que vous voulez. Bref, évidemment, un grand classique, la sérénade de la petite musique de nuit.
Oui, tout à fait. Voilà, moi, je suis toujours pour programmer des choses connues et puis des choses un petit peu moins connues. Donc là, le grand classique, on ne pouvait pas passer Mozart. Et Mozart, j'ai choisi cette sérénade. Alors évidemment, on a aussi l'habitude de l'entendre par le quatuor à cordes, par des instruments solistes. Là, ça va être la version orchestrale. Ça supporte bien. Alors, il faut jouer tout ça dans la légèreté, parce que Mozart, c'est à la fois puissant dans l'écriture, mais aussi faut que ce soit très fin. Donc ça, ce sera à nous de bien interpréter ce Köchel 525. Voilà.
C'est la question que je te posais tout à l'heure. C'est vrai que certaines des œuvres n'ont pas été écrites, notamment pour un orchestre symphonique au complet. Donc ça demande une adaptation pour vous, en l'occurrence, comme tu disais, dans la légèreté, pour ne pas trop dériver de l'image que voulait donner Mozart ou d'autres.
Oui, tout à fait. Alors quoi qu'on se demande toujours si à l'époque de Mozart, Ça c'était joué aussi par des orchestres, ça pouvait, on n'a pas assez d'éléments là-dessus, mais oui, c'est vrai qu'on l'entend, essentiellement en quatuor, cette œuvre-là. Maintenant, comme les œuvres baroques, comme les brandebourgeois d'ailleurs aussi, hein, nous on a décidé de la jouer un peu à la Karajan, mais ça a aussi son charme. Alors après, comme tu dis, tout est une question d'équilibre entre les pupitres, donner la parole aux instruments plus solistes et et jouer l'accompagnement avec beaucoup de légèreté. Mais ça, c'est notre travail du week-end, notre travail de répétition voilà. qui va permettre ça.
C'est d'ailleurs la question que je me posais par rapport, bien sûr, à ton travail de chef d'orchestre. Comment est ton approche par rapport à chaque heure? C'est-à-dire, évidemment, chaque orchestre et chaque chef d'orchestre, en l'occurrence, a une vision précise d'une œuvre. Et sur quels éléments, toi, tu t'appuies personnellement pour faire interpréter l'œuvre? Est-ce que c'est une interprétation que toi, tu sens et que tu demandes aux musiciens ou musiciennes? Ou est-ce que c'est un échange de choses? Comment ça se passe?
Ben c'est les deux à la fois. J'essaye d'avoir ma propre conception, c'est le travail du chef d'orchestre, hein, d'avoir sa propre conception. Alors, évidemment, je vais pas mentir en disant que je m'inspire aussi de ce qui a été fait, comme beaucoup de chefs, bien d'ailleurs. Hein, ce sera pas l'interprétation de Dominique Baran, même si, évidemment, j'essaye d'avoir des idées personnelles. Mais il y a toute l'histoire et ce qu'on nous a laissé, les enregistrements. Je m'inspire aussi. J'essaye, quand je fais mon travail sur la table, comme on dit, travail de chef, d'oublier tous les enregistrements et de me faire ma propre conception de l'œuvre. Et puis après, je m'inspire aussi de ce qui a été fait. Donc, c'est un mélange. Et après, évidemment, je travaille avec les chefs de pupitre. Mmh. C'est-à-dire que quand ils me disent, ce sont tous des grands techniciens, oui. Là, il vaut mieux faire ce coup d'archer là. Et on pense plutôt à cette articulation-là, je les écoute. Mmh. C'est un dialogue aussi. Moi, je conçois le travail de chef d'orchestre comme ça, et de plus en plus, les chefs travaillent vraiment à l'écoute des musiciens, c'est important. Avant, dans les années 30 à 60, on peut dire que les chefs étaient les maestros, et ils imposaient la plupart du temps leur conception avec juste un dialogue avec le violon solo. Mais maintenant, ça a changé, et fort heureusement d'ailleurs.
Parce que je posais la question, parce que quelquefois, notamment c'est le cas pour la petite musique de nuit, au niveau même du tempo, il y a des annotations sur, donc c'est allegro, mais on peut très bien aller de 140, 160, 180. Ça, c'est pareil, c'est au libre choix finalement.
Tout à fait, c'est au libre choix. Et on a tendance à dire que quand on a des formations comme ça, un petit peu plus conséquentes, il faut avoir des tempi peut-être un peu plus allants pour pas que ce soit lourd. Ouais. Et oui, ça, alors moi je donne des indications de tempi que j'aimerais, que je sens, parce que c'est le tempi est en relation aussi avec tout ce qui est cardiaque.
Bien sûr,
on ressent différemment la pulsation, comme tu dis. Et donc, voilà, j'ai donné des indications de tempo. Et après, j'essaye de les suivre. Et comme tu dis, c'est important que tout le monde se raccroche à un tempo unique. Parce que si chacun commence à jouer, c'est pas possible.
On est tout à fait d'accord.
Voilà.
L'œuvre qui va suivre est peut-être celle qui va être la plus calme, peut-être justement de ce programme, Mélodie et Élégiaque de Grieg. Alors Élégiaque, moi je ne connaissais, je me souvenais plus précisément du terme, c'est un poème plutôt triste, en l'occurrence tendre, qui est donc évoqué, donc ces deux mélodies en l'occurrence qui est autour de ces poèmes tristes. Alors Grieg, c'est un compositeur un peu à part, je trouve, dans le milieu des compositeurs, et cette fois-ci les deux mélodies vont vous entraîner dans un univers peut-être un petit peu plus nostalgique, en tout cas beaucoup sur la sensation, sur l'émotion.
Oui, on change complètement d'univers là avec Edvard Grieg, qui est un compositeur norvégien, qui a écrit ces deux mélodies élégiaques au départ pour voix, et puis ça a été réorchestré pour un instrument à cordes. Alors c'est de la musique effectivement un peu plus triste, mais pas austère. Hein. Mm-hmm. C'est le cœur blessé. La première des mélodies s'appelle le cœur blessé, le cœur qui subit les blessures dans les luttes de la vie. Mais il survit et la foi n'est pas détruite, c'est Grieg. Voilà, donc avec une musique très très profonde, très très colorée à la manière de Grieg. Ça fait penser un peu aussi à des extraits de Pergine, de la Mordaz aussi, dans sa façon de traiter les instruments à cordes. Voilà, et puis ça tombe bien, la deuxième mélodie, la deuxième mélodie qui fait référence au printemps, voilà, qui s'appelle Le Dernier Printemps, et là c'est la renaissance de la nature dans la Norvège dans le printemps.
Et puis Dieu sait que l'arrivée du printemps dans ces pays nordiques, c'est quelque chose qui est très important dans le calendrier, et qui fait office de quasiment de date anniversaire chaque année, l'arrivée enfin du soleil, le retour du soleil et du
c'est
et
ça
du...
alors le poète décrit la beauté de la campagne au printemps apparaissant après la neige de l'hiver. Il pense qu'il pourrait le voir pour la dernière fois. Il y a un côté aussi un petit peu nostalgique, mélancolique.
On poursuit avec des œuvres d'auteurs et de compositeurs un peu plus contemporains. Là, on a parlé de Béla Bartok. Cette fois-ci, c'est une œuvre aussi que vous connaissez certainement. On aura l'occasion d'ailleurs. Alors, c'est Dvorak qu'on écoutera plutôt tout à l'heure. Mais voilà, l'œuvre de Béla Bartok, c'est aussi une œuvre que vous connaissez peut-être, Divertimento pour cordes. Et là, ce sera l'Allegro non troppo.
Oui, c'est le premier mouvement qu'on a choisi. Alors, c'est un divertimento qui repose sur l'organisation du concerto grosso de l'époque baroque, donc inspiré un petit peu de Handel, notamment, dans un style néoclassique avec une référence au passé peu courante chez lui. On a un groupe de solistes qu'on appelle le concertino qui dialogue avec l'ensemble des cordes qui est appelé le ripieno, donc un dialogue entre solistes des différents pupitres et l'orchestre. Mais une écriture quand même très classique, même si on reconnaît bien l'empreinte de Bartok, qui est un musicien, qu'on va dire, la prémisse du musicien contemporain, avec une écriture particulière, mais une référence aussi à la musique des pays de l'Est, très rythmée, avec la musique ce qu'on appelle asymétrique, où on a des 5-8, des 7-8, avec des 6-8, 9-8, voilà. Alors, voilà, ça donne une sorte de balancement un peu avec plein d'accents, décalés des fois. Donc voilà, clin d'œil à Bartok, une œuvre peut-être moins connue par les auditeurs, tout aussi riche.
Ça, c'est une volonté que tu as, c'est de pouvoir éclairer nos oreilles d'œuvres très connues et aussi moins connues. Donc c'est du fou de faire pour faire une sorte d'équilibre. On commence avec des repères peut-être justement dans les oreilles, et puis ensuite ça nous permet de s'ouvrir peut-être et de découvrir des œuvres moins connues.
Ouais, tout à fait. Bon, on dit toujours qu'il faut rassurer l'auditeur. Il faut qu'il soit bien installé. Et puis voilà, avec des œuvres comme tu dis, comme la petite musique du Midi, concerto bande bourgeois, là c'est plus facile de se repérer. Et puis des choses un petit peu moins connues aussi, pour éveiller la curiosité des auditeurs. Ça me semble important d'avoir cet équilibre là dans la programmation.
Dvorak finalement est un auteur, on parle pas contemporain, mais en tout cas assez récent, on va dire, de notre époque. Et pourtant cette sérénade pour cordes en mi majeur était aussi un best-of, en tout cas un grand classique des mélodies que vous connaissez certainement, et c'est une œuvre majeure de sa carrière.
Oui, tout à fait. Alors j'ai hésité au départ, je me suis dit la sérénade de Tchaïkovski qui est aussi magnifique, ou celle de Dvorak, et puis finalement mon cœur a balancé Dvorak. J'adore aussi Tchaïkovski, mais je trouve qu'au niveau de l'orchestration et au niveau thématique, c'est peut-être le plus grand mélodiste de cette époque, fin du romantisme et début 20e. Dvorak, il est un peu à cheval, il est un peu à part. Bon, on connaît ses symphonies, on connaît ses concertos. Un petit peu moins le premier mouvement, je pense que là tout le monde va reconnaître, c'est celui qu'on entend mais ça c'est fabuleux comme musique, c'est d'une finesse, en plus une polyphonie savante et un tempérament lyrique en même temps dans l'œuvre, voilà, en 5 mouvements. Et on va dire que Brahms, qui est quand même la référence, qui admira son jeune confrère la richesse mélodique et rythmique de cette sérénade.
J'allais te poser la question, c'est vrai, Brahms c'était une des références de l'orchestre à cordes, et c'est vrai que ce soit dans la symphonie ou d'autres œuvres, il y avait cette profondeur, notamment le travail sur les violoncelles et contrebasses. Voilà, je me disais pourquoi peut-être.
Très inspiré, très admiratif de Dvorak, qui était son contemporain, mais on a 5 mouvements complètement différents, avec quand même un thème, le thème du premier mouvement qui reviendra dans le final, le final presto, quelque chose de rythmiquement très 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 relevé, et il fait un rappel à ce thème magnifique, une mélodie fabuleuse qui passe dans les différents pupitres de l'orchestre, et ça c'est l'écriture de Dvorak, la magie de Dvorak.
La magie de Dvorak, comme celle des autres compositeurs que vous pourrez découvrir donc le 24 mars à 17h dans la grande salle de la maison. Alors, pour pouvoir assister à ce concert, eh bien, il y a encore des places disponibles. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous diriger vers la FNAC à Nevers pour pouvoir acheter vos places en direct. Vous pouvez aussi, bien sûr, acheter vos billets en ligne sur le site des concerts nivernais, que vous connaissez certainement maintenant, puisqu'on a quand même l'occasion de se croiser régulièrement, évidemment, dans ces studios. Et puis, vous connaissez, bien sûr, l'activité de l'Orchestre Symphonique des Concerts Nivernais. Vous pouvez également notamment aussi acheter des billets au Conservatoire de Nevers, donc le mercredi 20 mars. Donc c'est la semaine prochaine, de 10h à 19h, donc toute la journée, mercredi 20 mars au Conservatoire. Et si vraiment vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir, avec toutes ces possibilités, trouver vos places, eh bien, à la maison, bien sûr, une heure avant le concert, une billetterie sera en place pour pouvoir vous vendre ces places. Les tarifs pour le concert, donc en plein tarif, 22 euros, 15 euros pour les étudiants, demandeurs d'emploi, bénéficiaires des minima sociaux, et puis pour les élèves du conservatoire de plus de 26 ans. Et vous avez également une gratuité pour les moins de 18 ans, c'est quand même pas rien, il faut le dire aussi, et pour les élèves du conservatoire de moins de 26 ans. Vous avez donc voilà, tous les renseignements nécessaires. Je crois qu'on a bien survolé également le programme, et vous en savez un peu plus sur chaque œuvre. On peut redonner, je pense, l'adresse du site des concerts nivernais, www.concert-nivernais.com. Vous allez pouvoir retrouver bien sûr les informations de ce concert, mais aussi la suite, parce que on est au printemps, mais il y a encore un concert à venir, il me semble, d'ici la fin de saison. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, ou peut-être également ailleurs. Voilà. Dominique, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à ajouter sur ce rendez-vous?
Au niveau des tarifs, je dirais juste, rajouterai que la gratuité est aussi pour les élèves des écoles d'enseignement artistique de la Nièvre, de Raisonnièvre notamment, puisqu'on a voulu ouvrir cette tarification spéciale à tous les élèves musiciens et comédiens et danseurs du département et qui adhèrent à Réseau. Ça me semble important de le rappeler.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu parler de ce concert.
Merci à toi Gaëtan.
On va poursuivre avec notamment bien un extrait, le début notamment de cette sérénade pour cordes en mi majeur de Dvorak. Voilà, pour toute la suite de cette œuvre, eh bien, rendez-vous dimanche 24 mars à 17h dans notre grande salle avec l'Orchestre Symphonique, des concerts nivernais. Deux petits rappels pour terminer cette émission avec notamment, eh bien, je vous l'ai dit, la représentation de Verino, notre artiste stand-up, dans son spectacle Co-Focus, pour lequel on est pour l'instant en liste d'attente. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de vous donner, comme pour celui de sa mort, de bonnes nouvelles d'ici très peu de temps. Un artiste, bien sûr, qui va aborder pas mal de thèmes de société, notamment pour avoir créé son spectacle, et bien sûr jouer avec votre sens de l'humour. Et puis pour terminer, encore quelques places disponibles peut-être pour les visites théâtralisées de la compagnie Fugue Théâtre, proposées samedi 30 mars à 14h et à 16h30 dans toute la maison, du sol au plafond, de la cave au grenier, pour découvrir au travers de scénettes très très drôles et très engagées, notamment et bien ce bâtiment emblématique que vous connaissez certainement, mais peut-être pas aussi bien que lorsque vous l'aurez découvert grâce à ces visites théâtralisées. 3 euros en tarif unique, dépêchez-vous, il ne reste que quelques places. Voilà, on va se quitter pour aujourd'hui avec notamment une artiste musicale, chanteuse que l'on accueillera un petit peu plus tard dans la saison, le vendredi 3 mai dans la grande salle. Il s'agit de Juliette, et pour lequel on va écouter notamment un extrait d'un des albums qui avait beaucoup marqué, Assassin sans couteau. Alors, on vous donne rendez-vous pour cette émission, la prochaine émission Culture en vrac, dans 15 jours en l'occurrence, la semaine prochaine à la Maison de la Culture, la Maison, et puis également il y aura la présence aussi d'ailleurs de Bac FM, une journée culturelle sous le signe de l'EAC. Pour la deuxième fois, on accueillera notamment le forum EAC de la Nièvre à la Maison. Donc, ça sera l'occasion, bien sûr, de retrouver tous les acteurs culturels locaux et régionaux. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine émission, donc le mercredi 27 mars, pour aborder la fin du mois de mars et puis aussi les deux semaines du mois d'avril qui sont riches en événements et en propositions. On vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.
C'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort, et pourtant pas une goutte de sang. Sans revolver ni poison, sans scrupule et sans cadeau, c'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est pour pas cher que la bras de l'ami, celui qui donne, celui qui trahit, 30 deniers, c'est le prix. Pour l'exécution facile des dessins les plus salauds, chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Cinglant reproche sur les rideaux visage, elle tombe de la bouche d'un mari volage, indifférent au saccage. Sans pitié, vas-y, fais mal, frappez-tu, allez bourreau, fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Il donne au journal le nom du coupable, même si demain le cas est contestable, le dégât est irrémédiable. Jouez crin-crin, sonnez crécelle, quand canon frappe les mots, quand canon la ritournelle des assassins sans couteau.
Quand canon la ritournelle des assassins sans couteau.
Ce que le pouvoir enivre et corrompt, les petits chefs à coups d'humiliation s'en servent sur tous les tons. Le menton plein d'arrogance, déversant la haine à flot, nazis et la belle romance des assassins sans couteau.